Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. En ski alpin, un triplé historique pour l'équipe de Suisse dans le combiné masculin par équipe des championnats du monde à Saalbach. Loïc Meillard et Franjo von Almen ont remporté l'or. Alex Simonet et Tanguy Neff l'argent et Stéphane Rogentin et Marc Rochat le bronze. Les comptes de la Confédération bouclent presque à l'équilibre. Ils présentent un petit déficit de 80 millions de francs. Le Conseil fédéral entend toutefois maintenir le programme d'économie prévu. Le risque de pénurie ne devrait pas toucher l'industrie du bois dans le Jura. L'association nationale a lancé récemment un appel aux propriétaires forestiers dans le but de pouvoir abattre davantage d'arbres. Météo, il faudra compter avec un temps nuageux et pluvieux. Demain, les températures se situeront entre 2 et 6 degrés maximum dans l'après-midi. Le temps s'annonce changeant vendredi, mais il devrait rester sec. C'est une journée à marquer d'une pierre blanche pour le ski alpin helvétique. La Suisse a signé un triplé magistral aujourd'hui lors du combiné masculin par équipe au championnat du monde de Saalbach en Autriche. La victoire est revenue au duo formé de Franjo von Almen et Loïc Meillard devant la paire Alex Simonet-Tanguy Neff et le duo Stéphane Rogentin-Marc Rochat. 6 Suisses donc sur le podium. La journée ne pouvait pas être plus belle pour le nouveau champion du monde, Loïc Meillard.
Le set complet maintenant là, mais je pense que ce qui est plus important, c'est pas forcément le titre, c'est les émotions qu'on vit avec toute l'équipe, d'être tous là sur le podium et de partager ces moments ensemble, c'est quelque chose d'exceptionnel.
Comment c'était avant le départ, Loïc? Vous partiez en sachant que vous aviez une vraie chance d'aller chercher une médaille d'or aujourd'hui. Comment c'était?
C'est vrai que c'était presque plus stressant d'être là pour l'équipe que quand on est là que pour soi-même, parce qu'on sait qu'on a envie de faire bien pour nous, mais aussi pour l'autre, pour Fagno, et donc ça rend les choses un peu plus nerveuses au départ.
Un petit verre de vin quand même ce soir, voire deux.
Bien sûr qu'il y aura un ou deux verres avec l'équipe, et je pense que ça fait partie de célébrer ces moments qui sont quand même uniques, et si on n'en profite pas aujourd'hui, quand c'est qu'on en profitera? Après, peut-être que lui restera un peu plus tard que moi, parce que voilà, il y a encore des courses qui arrivent, mais c'est clair, le verre fait partie.
Deux autres Suisses, Tanguy Neff et Alex Simonet, se retrouvent donc sur la deuxième marche du podium à 27 centièmes des vainqueurs. Le Fribourgeois a signé le meilleur chrono de la descente pour lancer parfaitement son coéquipier en slalom. Alex Simonet livre ses impressions.
Je pense que ce matin, j'ai fait une bonne manche de descente. Peut-être que je l'ai mis un peu sous pression en étant premier. C'est pas forcément ce que je voulais, mais en tout cas, c'est une journée magnifique. J'étais hyper content d'être avec Tanguy au départ de cette course. Très difficile à gérer la deuxième manche à l'arrivée, mais content de comment ça s'est fini.
Des propos recueillis par nos confrères de Ski Actu. Le duo composé de Stéphane Rogentin et de Marc Rochat a donc parachevé le chef-d'œuvre helvétique en se parant du bronze à 43 centièmes des gagnants. Le reste de l'actualité sportive, c'est d'ici quelques minutes dans le Point Sport. La tension continue à monter autour du cessez-le-feu au Proche-Orient. Le Hamas et son allié du djihad islamique ont affirmé aujourd'hui qu'ils ne céderaient pas aux menaces américaines et israéliennes d'une reprise de la guerre dans la bande de Gaza s'ils ne libéraient pas des otages samedi. « Nous n'accepterons pas le langage des menaces américaines et israéliennes », a dit le porte-parole du Hamas, alors que les médiateurs qataris et égyptiens mènent des négociations pour tenter de sauver la trêve. La Confédération boucle ses comptes 2024 quasiment à l'équilibre, soit avec une petite perte de 80 millions. L'écart se monte à plus de 2 milliards de francs par rapport au budget, qui était déficitaire également. Principale explication, les recettes ont été plus importantes qu'escomptées, avec 4,6 milliards de francs. C'est la première fois depuis 4 ans que la Confédération s'en sort si bien. Pour la conseillère fédérale en charge des finances, il reste toutefois nécessaire d'adopter le plan d'allègement budgétaire mis en consultation le mois passé, notamment en raison du renforcement des dépenses pour l'armée, Karine Keller-Souter.
On peut donc dire que les chiffres montrent de manière très claire que la Confédération n'a pas un problème de recettes, mais un problème de dépenses. La mise en œuvre complète du programme d'allègement budgétaire 27 est donc indispensable. Mais même avec cela, il ne sera pas possible de financer de nouvelles dépenses sans prévoir un contre-financement. Il est important de garder cela à l'esprit, notamment dans la perspective des initiatives populaires à venir, par exemple dans le domaine de l'AVS. En revanche, si le programme d'allègement 27 ne pouvait pas être appliqué ou seulement de façon partielle, la Confédération serait immédiatement confrontée à d'importants déficits structurels. Dans ce cas, un débat sur une hausse des impôts deviendrait inévitable.
La demande d'industrie du bois suisse arrive un peu tard pour le canton du Jura. De nombreuses scieries suisses présentent de faibles stocks de grumes en raison notamment des conditions météo pluvieuses de cet hiver ainsi que du précédent. L'association Industrie du Bois Suisse a donc lancé récemment un appel aux propriétaires forestiers pour éviter une pénurie. Elle les encourage à marteler rapidement les arbres prêts à être abattus ou à commander des travaux d'abattage correspondants. Dans le canton du Jura, la période d'exploitation arrive toutefois bientôt à son terme. Didier Haddad, directeur de Forêt Jura, donne davantage d'explications.
Ces dernières années, les propriétaires ont, dans la plupart des cas, surexploité à cause de ces bois malades. Donc c'est clair, il y a aussi une volonté des propriétaires maintenant d'un petit peu freiner, parce qu'il y a eu surexploitation les dernières années. Malgré ce frein, il y a certainement encore des possibilités pour couper un peu plus. Mais là, je dirais, la demande d'industrie du bois arrive aussi un peu tard aujourd'hui, sachant que les exploitations, la période des exploitations arrive gentiment à son terme chez nous. On exploite plus ou moins sur notre secteur, en tout cas arc-jurassien, on va dire, la période s'étale du mois de septembre au mois de mars. Donc là, on est à un bon mois, un mois et demi de la fin des exploitations principales. Donc c'est vrai que cette demande et puis cet intérêt des scieurs arrive un peu tard pour inverser une tendance.
Et Didier Haddad rappelle également que la pénurie de bois risque de toucher principalement les grandes unités qui scient de plus gros volumes que les scieries jurassiennes. La semaine des médias fait halte au lycée cantonal à Porrentruy. La manifestation romande a pour thème cette année « Informer sans déformer ». L'objectif vise à mieux comprendre le métier de journaliste et à déterminer ce qui le différencie des influenceurs sur les différents réseaux sociaux. Les jeunes ont suivi hier des ateliers autour de la recherche d'informations. Ils ont également participé à l'enregistrement du podcast Point J, produit par la RTS. Rencontre dans la médiathèque du lycée cantonal à Porrentruy avec les lycéens et avec Jean Préteau, leur enseignant.
Bonjour, salut tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour enregistrer ce Point J public. Moi, c'est Juliane.
Il y a eu un atelier ce matin pour les élèves, une classe de deuxième année du lycée, autour du métier de journaliste, au niveau de l'information, des recherches. Et puis cet après-midi, c'est l'enregistrement du Point J avec toute une équipe de journalistes présentes sur place. Donc c'est un beau moment de médias.
Pourquoi c'était important pour le lycée de pouvoir organiser cette journée, en même temps les ateliers et l'enregistrement de ce podcast ?
Alors, je dirais d'abord l'éducation aux médias, des enjeux très très importants aujourd'hui. Un élève prend de l'information sur TikTok principalement, il va vous dire que c'est de la vidéo qu'il va chercher avant tout, avant même une autre information sur un journal par exemple ou même à la radio. Et puis deuxième élément aussi qui me semble important, c'est l'expression orale, c'est de la prise de parole en public. La radio est un moyen parfait pour justement aiguiser au mieux les élèves à cet exercice.
Les amis, aujourd'hui je suis dans la plus grosse mine de diamants à ciel ouvert du monde. C'est au Botswana, en Afrique. Elle est juste derrière moi et je vais vous montrer.
Moi, ce qui m'a plu, c'est de pouvoir découvrir un peu ce métier de journaliste et ça peut aussi peut-être ouvrir de nouvelles portes pour un futur métier là-dedans.
Donald Trump a lancé sa propre monnaie virtuelle et elle a bondi de 800% en un seul week-end. Alors oui, je sais, on parle beaucoup de lui en ce moment.
C'est quoi la grande différence entre un influenceur et un journaliste ou une journaliste ?
Ben justement, on s'est posé un peu la question. On a un peu vu aussi qu'il y avait beaucoup d'influenceurs qui étaient journalistes. Et donc, on se pose la question si les influenceurs ont les mêmes sources que les journalistes. Et c'est ce qu'on va un peu apprendre durant cette journée.
Les influenceurs et influenceuses sont très souvent cités comme des sources d'information.
Vous connaissez bien les élèves, évidemment. Vous avez l'impression qu'ils ont un bon rapport avec les médias ou est-ce qu'il y a encore justement du travail ?
Il y a beaucoup de travail. Il faut leur montrer que les médias d'aujourd'hui ont aussi changé, mais doivent toujours passer par de la recherche de la formation pour trouver des choses pas simplement utiles, mais aussi justes et vérifiées.
Aujourd'hui, dans Toile, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Théo Curin, le double champion du monde de nage handisport.
Ben, je pense qu'on peut toujours avoir un peu des a priori sur les journalistes et le fait d'en avoir rencontré en vrai, je pense qu'on peut peut-être avoir un peu plus confiance en eux ou ouais, sentir un peu plus proche des informations qu'ils peuvent donner.
Moi, ce qui m'a marqué, c'était de pouvoir vraiment voir comment les journalistes, eh bien, ils arrivaient à différencier les bonnes sources et les mauvaises sources pour faire leurs articles.
On embarque dans le légendaire Venise-Simplon Orient Express, dans la cabine la plus chère au monde. Et comme vous, j'ai plein de questions. On s'est pas chié pendant 24 heures ?
Un reportage réalisé par Jean-Michel Probst. La semaine des médias se poursuit au lycée cantonal, avec notamment la présence du Radiobus demain.
RFJ, il est 18h10.
RFJ, sport.
Et vous l'avez entendu en début de journal, la Suisse a réalisé aujourd'hui un triplé historique dans le combiné masculin par équipe des championnats du monde de ski alpin à Saalbach. Loïc Meillard et Franny Hoffenhalmen ont remporté l'or. Alex Simonet et Tanguy Neff ont décroché l'argent. Le bronze est revenu à Stéphane Rogentin et Marc Rocha. La Suisse compte désormais 8 médailles aux championnats du monde de Saalbach. Hockey sur glace, un gros morceau en guise de reprise pour le HC Ajoie dans le championnat de National League. L'équipe jurassienne défie Zurich à 19h45 sur les bords de la Limate après une trêve internationale d'une dizaine de jours. Le HCA avait signé 3 victoires de rang avant la pause. Il va donc tenter de cultiver cette série ce soir. Le match entre Zurich et le HCA Ajoie sera à suivre ce soir en direct sur RFJ à partir de 19h30 avec les commentaires de Cyprien Lovi. Sophia Chetla ne veut pas s'arrêter en si bon chemin après une année 2024 très convaincante. La jeune athlète de la FSG Kourou veut confirmer cette saison. Elle s'entraîne actuellement d'arrache-pied et prendra part dans moins d'un mois au championnat de Suisse de cross, son premier grand objectif de l'année. Après avoir multiplié les heures d'entraînement sur piste, la jeune femme de 20 ans a découvert les joies des courses dans la nature, Sophia Chetla.
Je me suis rendu compte que courir dans la forêt, c'était vraiment sympa, l'ambiance et c'est la nature. J'ai vraiment adoré.
Et avant ça, c'était la piste. Vous n'aviez pas trop découvert ça?
Voilà, c'était piste. Après, j'aime beaucoup la piste parce que c'est plus objectif. Il y a des chronos. Si les chronos ne sont pas maintenus, c'est que c'est un mauvais entraînement. Alors qu'en forêt, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir savoir si l'entraînement a été bon ou moins bon. Donc c'est vrai que j'adore aussi la piste.
Alors entre la piste et le trail, on imagine que vous avez dû aussi modifier votre entraînement ces dernières années, ça a dû évoluer?
Ça a un peu évolué, mais étonnamment pas tant que ça.
Mais Sophia Chetla répondait à Jérémy Pignard. Retrouvez un portrait complet de la jeune athlète jurassienne sur notre site internet rfj.ch. En volleyball, une double casquette pour Mélanie China. L'entraîneur du volleyball Franche-Montagne prend également avec effet immédiat la fonction d'entraîneur adjointe de l'équipe de Suisse junior féminine. L'annonce a été faite aujourd'hui par la fédération. Enfin en football, Taulan Chaka rangera ses crampons à la fin de la saison. Le milieu de terrain du FC Bâle mettra un terme à sa carrière cet été. Le joueur de 33 ans n'entre plus vraiment dans les plans de l'entraîneur Fabio Celestini. Le frère aîné de Granit a toujours porté les couleurs du FCB, hormis pendant un prêt de 18 mois à Grasshopper. Il a remporté 6 championnats et 2 Coupes de Suisse sur les bords du Rhin.